Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons commencé dans le premier épisode de notre lecture qui a pour titre « Trembler », le livre écrit par Catherine Laborde qui a présenté la météo sur TF1 pendant de nombreuses années. Et elle a aussi écrit plusieurs livres, dont « Trembler » que nous sommes en train de lire. C'est un livre vérité sur la maladie de Parkinson dont elle est victime. Elle nous raconte tout en pudeur, émotion, humour. Ce mal qui touche plusieurs milliers de personnes, tant les malades que les aidants qui prennent soin d'eux. Au début du livre, elle note un avertissement que je vais vous lire, car nous le retrouverons tout au long du livre. Avertissement. Cher lecteur, vous trouverez ici et là dans ce texte des mots qui n'existent pas ou qui reproduisent plusieurs fois la même lettre, voire la même syllabe. Des mots réels, exacts ou non, qui apparaissent de façon quasi intempestive dans ce récit. Ne vous étonnez pas. J'aurais pu les effacer à la relecture, mais j'ai, au contraire, tenu à conserver les traces des difficultés rencontrées par mon cerveau lorsqu'il s'agit de le faire travailler, quand un intrus vient court-circuiter son fonctionnement. Voilà pourquoi certains mots sont indiqués avec un astérisque. Chers auditeurs, je me permettrai donc de signaler avec le mot astérisque ce type de mots pendant la lecture. Diagnostic. Allons à la salpêtrière, peut-être aurais-je un début de réponse. T, ma compagne. Nous avons rendez-vous avec la professeure V. Parcours du combattant pour arriver jusqu'à elle. Nous avons franchi des couloirs, des passages, des salles, suivi des flèches rouges, bleues, oranges, pris un ascenseur jusqu'au deuxième, et puis un autre jusqu'au quatrième. Et enfin, nous sommes arrivés au bout d'un long couloir, devant une porte discrète. Quelques personnes sont assises sur des chaises, depuis des heures, on dirait, sans rien attendre, ni personne, le regard vide, lamelles, astérisque. On nous fait entrer dans un petit bureau vide de tout papier, de toute présence. Nous demeurons un long moment dans cette minuscule pièce surchauffée. On a attendu sans se parler, sans bouger. On est là pour un verdict. On n'est pas pressé de l'apprendre. Et puis, on a entendu claquer les talons dans le couloir. On a compris que c'était elle. On s'est levé avant même que la porte s'ouvre. Elle est entrée et son sourire a effacé toute crainte. Elle s'est montrée chaleureuse, élégante, curieuse de ce que je pouvais lui dire. Son diagnostic a été le même que celui de mon neurologue, qu'elle connaît bien et en qui elle a toute confiance, dit-elle. L'impression grandit en moi que tout ça ne me regarde pas vraiment. Mon corps seul est concerné. Cette sensation de partage entre mon corps et moi revient de plus en plus souvent. Cette distance va devenir irréductible. Ce matin-là, face à elle, ma main n'a pas tremblé. Tout a été simple. Ô lecteur, le retour a été plus difficile pour T et pour moi. Nous étions deux oisillons fébriles et perdus. Mais à présent que ma confession m'engage auprès de vous, je dois trouver les mots pour parvenir jusqu'à vous, jusqu'à toi, lecteur. Les trouver d'abord, les choisir, les écrire. Mais ce soir, Mes doigts tremblent sur le clavier et ce n'est pas de froid. J'écris mes lettres en les doublant parce que j'appuie trop longtemps sur la touche. Je suis à peine lisible, même avec l'ordinateur. Surtout ne pas lever les yeux de l'écran. Je risque à tout moment de perdre ce que je veux transmettre à toi qui me lis. Dès que je lève la tête, mes pensées se dispersent. Elles ne restent ni sous mes doigts, ni sous mon crâne. Je n'ai plus aucune concentration. J'ai beaucoup de mal à écrire les mots, à décrire cette scène de l'hôpital. Je m'y efforce d'autant plus que je voudrais que vous, qui êtes victime de cette maladie, vous reconnaissiez dans ces lignes ce que vous éprouvez vous-même. Je n'oublie pas que j'écris pour vous. Mais sans doute vivez-vous différemment de moi, votre Parkinson. Chaque Parkinson est unique. Et pourquoi suis-je passée du « tu » au « vous » ? J'aurais voulu rendre la scène de l'hôpital plus légère, sans le silence lourd de l'attente. Et me voilà dans l'incapacité de trouver les lettres, les phrases pour faire de ce médecin un portrait doux, aimable, chaleureux. Chez moi, face à la fenêtre, ce sera plus facile. Par instant, je bondis hors de mon bureau comme le foin, un astérisque. Les mourants hors de leur lit, eux avec les dernières forces du désespoir, moi avec l'illusion d'échapper à ce livre. Tant je peine à l'écrire. Serai-je guérie quand il sera terminé? Évidemment non! Même ma situation aura empiré. Les médecins le savent, moi aussi. Mais à quel rythme et comment? Ils n'ont pas la réponse. Personne n'a la réponse. Parkinson est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui est évolutive. Cela veut dire que la situation va de mal en pis, mais sans tuer. Pas de mortalité, mais pas de guérison non plus. Ne pas l'oublier. Enfin, si le mot « oublier » a encore un sens pour moi à ce moment-là de la maladie, combien de fois devrais-je l'écrire pour m'en persuader? Bien qu'elle n'en ait rien laissé paraître, je vois bien que la professeure trouve mon cas à ce stade plutôt dérisoire. Quand elle établit le diagnostic sans aucune hésitation et confirme celui de mon neurologue, sa première remarque est la même que celle de mon neurologue. « N'en parlez à personne !» Ma maladie est légère, invisible. Il faut qu'elle le demeure, à moins, au moins, tant que je travaille. Peut-être a-t-elle rencontré des patients qui, dans un premier temps, aiment clamer leur malheur dans une posture héroïque et bête, comme moi sur mon pont Mirabeau. Une façon d'exiger de l'amour et d'échapper au frôlement redoutable de la mort. Mais j'agis comme elle me l'a demandé. Personne n'est au courant, sauf mon époux. Pour donner du poids à son conseil, elle cite l'exemple d'un pilote de ligne qui, comme moi, est soigné pour un début de Parkinson. Dans son métier, on confie donc à cet homme la vie de plusieurs centaines de voyageurs. Sa maladie étant à ce stade aussi insignifiante que la mienne, il continue de voler en toute sécurité pour lui et ses passagers. Cet exemple peut-il guérir ma peur en avion? Ce serait toujours ça. Surtout, elle insiste, il ne faut pas que j'arrête de travailler, bien au contraire, je dois cultiver toutes mes activités, qu'elles soient physiques ou mentales. Allez, hop, allez-y. Elle m'a prise par les épaules comme si elle voulait me faire partager son goût pour le sport. Toute affaire sédante. Dans le minuscule bureau, T sourit. Il connaît mon manque d'appétence pour tous ces mouvements un peu ridicules. « Pas si vite, cher docteur. » Elle me secoue presque. « Pas si fort. » Je suis sortie de cette visite, à la fois rassurée et déroutée. Je ne vais plus pouvoir jouer à la malade dont tout le monde prend soin. Je suis atteinte d'une maladie assez grave pour que je m'astreigne tous les jours à bouger mon corps et ma tête au moins 20 minutes par jour, dit-elle. Mais suffisamment bédouin, astérisque, pour que je tienne ma place dans le monde des valides sans embêter ni avertir personne. Elle n'a pas employé ces mots, mais c'est ce que j'ai compris. Et j'ai pensé qu'elle avait sûrement en charge des gens atteints d'affections bien plus épouvantables que la mienne, comme la maladie de Charcot, que seul un Frédéric Bradé pouvait tenir à distance par la grâce de son intelligence et son amour de la littérature dans son livre magnifique « La grande santé » paru en 2015 au Seuil. Et son livre se termine de façon étrange. « Je reste là, immobile, et j'attends d'être guérie pour que ma vie reprenne un cours normal. » Or, la maladie de Frédéric B. interdit toute possibilité de guérison. Son mal est une affection chronique, comme Parkinson, mais la très grande différence, c'est que Parkinson n'est pas une maladie mortelle. Donc, au moment où il écrit cette phrase, il sait que c'est faux, qu'il ne retrouvera jamais le cours normal de sa vie. Astérisque. Mais on ne peut pas accepter ça, que ça ne s'arrête pas. La vie ? Non, la maladie. Je ne peux pas m'empêcher de croire, malgré moi, que ce livre terminé, je passerai à autre chose et que le volet maladie se refermera définitivement. Eh bien non, il ne se refermera pas jamais. Et voilà l'intorable, astérisque, l'insupportable. Maman, j'ai déjà vécu cet abominable sentiment d'impuissance avec la mort de ma mère. Elle est morte de la maladie d'Alzheimer sans avoir retrouvé sa conscience, sans reconnaître ce qu'elle aimait, son mari, ses enfants. Elle non plus n'est pas passée à autre chose. La maladie l'a poursuivie jusqu'au bout, sans aucune rémission possible, inexorable. J'avais admis sa maladie, ses mots et ses regards étranges qu'elle posait sur nous. Je supportais toute cette bizarrerie parce qu'au fond de moi persistait cette croyance indéfectible que nous nous retrouverions, elle et moi, avant sa disparition, ne serait-ce que pour nous dire « au revoir ». Cette croyance était fausse. Je le savais bien, mais je ne pouvais pas m'en défaire. C'est pourquoi sa mort, bien que prévisible, m'a paru insurmontable et le chagrin incommensurable. Elle n'avait pas été présente à notre ultime rendez-vous. Elle était partie sans me dire adieu. La plupart de mes amis crurent que sa disparition m'apporterait un peu de soulagement. Ce fut exactement le contraire. Ma détresse fut totale. Je venais de comprendre que je l'avais perdue pour toujours.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Météo. À mon départ de TF1, j'ai compris, en recevant tout le courrier des téléspectateurs, que cet instant si énorme pour moi avait aussi beaucoup compté pour eux. Et j'ai parlé de l'oubli, bien sûr, puisque, décidément, l'oubli est le thème principal de ce livre, de son opposé aussi, la mémoire. Donc, ce jour-là, après l'enregistrement de la météo, j'ai dit quelques mots d'adieu à destination de ceux qui me suivaient depuis tant d'années, avec une belle fidélité, de ceux avec lesquels j'avais travaillé si longtemps, et j'insistais sur le fait que je ne les oublierai pas. Je n'avais pas du tout préparé ces quelques phrases sur la mémoire, mais là, tout d'un coup, j'ai compris que tel serait, au-delà de l'envahissement de Parkinson, le thème de ce livre, la mémoire et l'oubli. Maintenant que je sais que j'ai la maladie de Parkinson, Je sais aussi qu'on observe les premiers symptômes bien après ses débuts. Nous sommes à l'automne 2014 et je travaille toujours à la météo. Je ne m'inquiète pas, à cette époque, des effets de Parkinson sur mon travail. Pour moi, il n'y en a pas. Et j'ai si bien retenu le discours des soignants que je ne me pose même pas la question de savoir s'il y a une relation, une interaction entre mon travail à la télé et ma maladie. Je me rappelle surtout l'exemple que m'a donné la professeure. Parmi ses patients se trouve ce pilote qui continue ses activités professionnelles malgré Parkinson. Il n'empêche. En y repensant aujourd'hui et maintenant que j'ai quitté TF1, je me demande si Parkinson ne s'est pas glissé dans mon crâne entre deux météos sans que je m'en doute et avant tout diagnostic. Pendant tous ces mois, j'ai continué à présenter la météo et je n'ai eu qu'un seul but, faire un bon bulletin et pour cela me concentrer au maximum comme je l'avais toujours fait depuis presque 30 ans. Un bon bulletin, c'est un bulletin où je donne des prévisions météorologiques établies par des ingénieurs météo que je présente au public de manière claire et, si possible, simple, sans trahir les prévisionnistes et leur souci de la précision, quand bien même la météo n'est pas une science exacte et ne le sera pas avant longtemps. L'autre condition d'un bon bulletin est de capter l'attention du téléspectateur de telle sorte qu'il n'aura pas envie d'aller voir ce qui se passe sur les autres chaînes. Pour cela, comme au théâtre, le costume est essentiel. Et là, tous les goûts étant dans la nature, ce qui plaît aux uns peut déplaire aux autres. D'où l'importance de la robe, sa couleur ou sa coupe, etc. De manière générale, je peux affirmer après tant d'années de météo que les téléspectatrices et les téléspectateurs préfèrent, jeunes comme vieux, que les présentatrices portent plutôt des robes, pas trop courtes, près du corps, un peu moulantes, mais pas trop. Autant le dire, la liberté des femmes ne se manifeste pas encore dans les vêtements à la télé. Ce qui m'a toujours préoccupée pendant toutes ces années, c'est d'apparaître en bonne forme, joyeuse, gaie, précise. Et je crois que ces adjectifs correspondent bien à ce que le public attend de moi. Je n'oublie pas les présentateurs. Je précise que la météo a gagné ses lettres de noblesse quand des hommes sérieux et cultivés sont devenus présentateurs. À méditer, non ? Je pense à Alain Gillot-Pétré, bien sûr, mais aussi à Michel Cardoz ou à François Fandeux. Depuis, le nombre d'hommes et de femmes s'équilibre dans le cerveau astérisque de la météo. Voilà, ça va être à moi. Dans mon bureau, je repasse dans ma tête le script que je prépare pour que mon bulletin s'articule bien. Je revois toutes les cartes que je veux montrer. Aucun papier, aucun texte par cœur. Tout à l'heure, j'étalerai les feuillets devant moi sous la caméra, rituel inutile. Mes fiches sont trop loin de moi pour que je puisse les lire, et pourtant indispensables. Tout est réglé, le réalisateur va donner le top départ. Je suis extrêmement tendue, aux aguets, comme un coureur qui se bat pour une médaille d'or. Un dernier coup d'œil au miroir. Il faut que mon texte, ma tenue, soit impeccable. Tout va bien. La robe est bien, à ma taille, sous toutes les coutures, face, côté, dos. Et pourquoi ce jour-là, cette confusion soudaine dans ma tête ? J'ai quitté mon bureau, mais pour aller où ? Je ne suis pas sûre d'être là où je devrais être. Pourquoi suis-je devant l'ascenseur ? Où dois-je me rendre ? À quel étage ? Où suis-je ? Cette volée de questions traverse ma tête en quelques secondes et disparaît aussitôt. Je sais, je marche vers le studio 1. Je vais enregistrer ma météo, tout va bien. Le bulletin n'est pas en direct, tant mieux. J'essaie de contrôler ma respiration. Je pousse les portes battantes, je suis les couloirs, je repense au déroulement de mon bulletin, à quel moment je peux aller plus vite, plus lentement, si je peux me permettre un sourire, un clin d'œil. La coiffure est parfaite, grâce à Xavier. Ce petit bout de phrase pour qu'il reste présent dans ma mémoire. Xavier était un bel artiste, un coiffeur d'exception. Plusieurs millions de gens vont me regarder. Je ne peux pas les décevoir. Je reste concentrée sur mon bulletin. Arrivé en régie, le chef de chaîne me confirme le temps imparti pour la météo. Souvent entre 3 et 4 minutes. C'est long, 4 minutes. Et si le grand vide que j'ai ressenti tout à l'heure devant l'ascenseur se reproduisait en plein bulletin à l'antenne? Tout d'un coup, le tract me broie. Un tract abominable, féroce. Je repense à ce mot d'esprit qu'on attribue à la grande comédienne Sarah Bernhardt, qui avait demandé à une apprentie comédienne si elle avait le trac, et à qui la jeune écervelée avait répondu d'un air triomphant « Madame, madame, ça y est, je n'ai jamais le trac !» Et la grande actrice de répondre « Ne vous inquiétez pas, mon enfant, il vient avec le talent. » Eh bien là, je dois avoir ce soir un talent fou. On m'installe un micro. On règle le fond clair sur lequel vont s'encastrer les images fabriquées par la merveilleuse équipe des graphistes. À présent, tout est en place. Le chef de plateau tient le chronomètre. On peut y aller. Compte à rebours. Générique, c'est parti. Je me fais l'effet d'être dans un avion quand il met les gaz et s'envole. Où est le pilote? Je frappe les mains l'une contre l'autre pour plus de concentration. Par un système de miroir, je peux voir les cartes qui s'affichent derrière moi. Les mêmes que celles que les téléspectateurs voient à l'écran. Au début, tout se passe bien. J'enchaîne les cartes qu'on m'envoie depuis la régie, et puis tout à coup, en montrant les nuages qui arrivent de l'Atlantique, j'ai un trou. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne reconnais pas mes cartes. Est-ce moi qui me suis trompée? Que se passe-t-il? Où suis-je? Je plie mon corps en deux. J'ai honte, je voudrais disparaître. Comment ai-je pu oublier d'un coup tout ce que j'ai élaboré depuis ce matin avec mes équipes? Je deviens folle! Heureusement, nous ne sommes pas en direct. Je suis persuadée d'ailleurs qu'un tel désastre n'aurait pu se produire en direct. Paradoxalement, je crains moins les bulletins en direct que ceux enregistrés où l'on essaie d'être parfait. Il y a une sorte de prise de risque dans le direct qu'on n'éprouve pas dans l'enregistré. Et cette prise de risque, c'est comme un vertige dont on ne peut se passer et qui vous protège. Le direct, c'est de la drogue. On est plein d'énergie, on a peur et en même temps, on l'attend avec ferveur. Et tous les soirs, le pari est le même. Les souvenirs reviennent plus nombreux en cette fin d'année 2014. Je me rappelle ma fatigue plus grande de jour en jour. L'anxiété de ne pas être parfaite dans mes bulletins. Quand le diagnostic tomba, je décidai de m'arrêter. J'hésitais, bien sûr. Les médecins qui m'entouraient insistaient tant pour que je vive comme avant, sans cesser de travailler, sans en appeler à mes proches. Et voilà que je voulais partir, renoncer à la météo. Je suis convaincue que cette gymnastique cérébrale à laquelle oblige le métier ne peut être que bénéfique pour lutter contre Parkinson. Je comprenais bien l'intérêt de continuer. Tout l'enjeu? S'arrêter voulait dire renoncer, abandonner, disparaître. La maladie est une bataille, et grâce à mes présentations, je pouvais la gagner. J'en suis toujours persuadée. Je suis partie quand même. Quoi que j'en pense, il était temps. Mon corps et moi. En sortant de la salpêtrière, je suis convaincue d'une seule chose. Laisser mon corps se débrouiller tout seul. Mon corps a ses problèmes, j'ai les miens. Pas question de les mélanger. À lui la souffrance, les trébuchements, les crampes, les vertiges, les paniques. À moi, la recherche infinie de tous ceux qui, par la pratique de leur art, ont atteint une puissance qui les a rendus plus forts que la maladie. À moi, la découverte du Japon, du Brésil, l'attente impatiente de mes petits-enfants et plein de choses encore que je me plais à imaginer. À lui, les signaux morbides, les douleurs inattendues, la déprime. À moi, les petits bonheurs. À lui, les malaises imprévus. Je suis plus heureuse aujourd'hui qu'alors, quand j'étais valide et fatiguée. Et dans ce nouveau monde qui est celui de la maladie, je découvre des moments de tendresse sensuelle chez ceux qui m'entourent, des moments où le cours des jours se suspend, s'arrête et témoigne de l'éternité de l'amour, loin des grimaces de Parkinson. Nous partageons ce secret, mon corps et moi, sans nous l'avouer, dans le silence. Cher lecteur, chère lectrice, tu ne t'étonneras pas que je construise dans cette distance entre Parky et moi, la suite de ce livre. Je vise à traquer Parky partout où il se trouve, sans jamais renoncer à écrire ce qu'il m'arrive. On verra donc comme chaque partie de mon corps est affectée par ce satané Parkinson et la manière dont je peux ainsi le circonscrire, l'étouffer ou l'éloigner de moi. Voici la liste. Doigts, main droite, main gauche, pieds, cuisses, tête, le corps de montagne, sexe, fesses, visage, Venise, genoux, sein, bouche, œil, goût, toucher, voix, crâne, cerveau, hallucination, squelette, dents, colonne vertébrale, dos. Cette liste en apparence désordonnée vous intrigue? Allez-y voir, mes amis. Peut-être poserez-vous un autre regard sur le corps, le vôtre, le mien.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Doigts. Forcément, c'est sur eux que je souhaite écrire d'abord. Sans doute parce qu'ils ont été les premiers symptômes, les avant-courriers de mon mal. Au début de cette maladie, pour cacher mes premiers tremblements, je gardais la main dans ma poche, avec l'impression de tenir au chaud dans ma pomme une sorte de petit oiseau tombé du nid. Et puis, l'oisillon est devenu rapace. Et aujourd'hui, ma main se tord légèrement, les doigts se retirent sur la pomme à l'intérieur. J'ai désormais pris l'habitude de tenir ma main droite, la plus fébrile, la plus active, avec ma main gauche, de telle sorte que on ne remarque ni sa position bizarre, ni ses tremblements. Il y a 3 ou 4 ans, mon écriture, quand je m'appliquais, était plutôt lisible, ronde, agréable à l'œil, enfin je crois. Et puis, peu à peu, les lignes ont commencé à se tordre, les phrases partaient vers le haut ou le bas de la feuille. Oui, l'ordinateur m'a sauvé la mise, plusieurs fois. Sauf à Noël, en 2010. Comme chaque année, je répondais, autant que je pouvais, aux très jolies cartes qu'on m'envoyait. Cette année-là, j'ai pris conscience que ma main, mes doigts, ne m'obéissaient pas. Je me suis rendu compte que mon écriture était devenue presque indéchiffrable. Je regardais mes doigts, tachés d'encre bleue. Ils se crispaient, se tendaient, se tordaient. Les pauvres mots qu'ils tentaient d'écrire se traduisaient par ces petits tas bleus. Ces griffures illisibles. Je mis ces pattes de mouche sur le compte de la fatigue. Noël passa. J'oubliais mon écriture. Mon ordinateur me protégeait. Mais à chaque Noël, ça recommence. Je ne crois pas que ça aille de mal en pis. Mais ça ne me quitte pas. Je n'écris plus à la main. Mes doigts resteront tordus chaque fois que je voudrais écrire, même avec toute la concentration possible. Tant pis. Cher lecteur, attends-moi s'il te plaît. Je reprends des forces et je reviens vers toi dans un moment de répit. Il y en a. Là, à l'instant, mes doigts, mes poignets me trahissent alors que je m'obstine à écrire sur mon clavier avec tant de peine. Les phrases deviennent des labyrinthes sans issue et se perdent en route. En route vers quoi? Où dois-je aller? Souvent, à cause de mes doigts tremblotants, hésitants, sans que je puisse appréhender ce qui provoque ce changement brutal, je ne comprends pas ce que j'ai voulu écrire. Je suis à bout. La clarté de mon propos a disparu. La figure d'Apollinaire aussi. Écrire est aujourd'hui au-dessus de mes forces. Je suis seule avec ma maladie cachée. Mes doigts tremblent si fort que je dois les retenir. Je fixe ma main d'un air sévère, mais rien n'y fait. Elle ne m'appartient plus. Cette nouvelle étape dans l'éloignement entre elle et moi est la seule défense que j'ai pu élaborer pour ne pas dépendre de mon corps malade. Je ne peux plus écrire, en tout cas pas avec la main, mais avec les deux sur le clavier de l'ordinateur, c'est possible. Et les journées défilent sans stylo, sans papier. Tout est sur l'écran. Je garde les yeux fixés sur le clavier. Les mots m'emportent plus vite que ma pensée. Je dois aller vite. Ils me perdent et s'alignent peu à peu sans rien signifier d'autre qu'eux-mêmes. Une journée sans écriture, et du coup sans lecture, est-elle une journée perdue? J'enrage de trembler sur mon clavier. Je sais que d'autres, réduits à néant par leur maladie, ont réussi à dicter un livre. Mais je n'en suis pas là. Je n'en serai sans doute jamais là. Je pourrai toujours écrire et dicter. Je ne donnerai pas l'impression de mourir peu à peu. Je ne veux pas. Cette maladie n'est pas mortelle, m'a répété la professeure neurologue. Jeu de main. Quand je regarde le dos de ma main, j'ai l'impression de regarder celle d'une autre. Avec les années, elle est devenue différente. Les veines ont gonflé et la marque de symbole noir et gris. Les taches dites « fleurs de cimetière » s'étalent de jour en jour imperceptiblement. Le poignet est devenu plus mince, plus étroit. J'ai toujours peur qu'il ne se casse. La peau a pris une vilaine couleur jaunâtre. On dirait des pattes de poulet. Hier, quand j'ai voulu arracher une mauvaise herbe à la bordure du jardin avec la main gauche, je n'ai pas pu plier le majeur. Il était rouge et gonflé. J'ai cru que j'avais été piquée par un insecte. Mais ce n'était pas un insecte, et ça ne me faisait même pas mal. Tous ces petits moments troublants, ces sensations furtives et désagréables, à peine perçues, évanouies dans la fin du jour, c'est la vieillesse? Ou la maladie de Parkinson, qui peu à peu détruit mon corps et s'attaque à mon âme? Je résiste. Je suis devenue à la fois plus sensible à toutes ces misères et indifférente à mon destin. Moi, je ne compte plus. J'arrive à ce moment de ma vie où la femme vieillissante retrouve dans le monde qui l'entoure les mêmes écueils qu'un tout petit. Le tout petit grandit et finit par les maîtriser. La femme âgée dépérit, se flétrit et s'amenuise au fil des semaines et des mois. C'est ainsi qu'on apprend à mourir. Que ces lignes ne t'étreignent pas, cher lecteur, chère lectrice. Évoquer la mort n'est ni un danger, ni une faute, mais l'apprentissage de la sagesse. Montaigne, qui l'avait écrit, qui l'avait appris des épicuriens, l'écrit dans ses essais. Comme nous l'avons vu dans notre lecture précédente, comme dans celle-ci d'ailleurs, les manifestations de la maladie de Parkinson sont diverses et nombreuses, souvent inattendues. Je retiens une des phrases que l'auteur a mis juste avant la longue énumération des différentes parties du corps. Dans le chapitre « Mon corps et moi », elle dit « Je vise à traquer Parky partout où il se trouve, sans jamais renoncer à écrire ce qu'il m'arrive. » On verra donc comment chaque partie de mon corps est affectée par ce satané Parkinson et la manière dont je peux ainsi le circonscrire, l'étouffer ou l'éloigner de moi. Vaste chantier d'action et de lutte permanente que tout parkinsonien doit vivre s'il ne veut pas se laisser gagner trop rapidement par les symptômes qui peuvent vraiment lui rendre la vie impossible. À bientôt pour la suite de nos lectures et n'oubliez pas, je lis pour vous. En sur la radio, Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, les mardis et mercredis 21h et rediffusion 6h les lundis et mardis, ou toujours disponible sur les podcasts de la radio. www.radioallianceplus.fr. N'oubliez pas aussi la brève de Je lis pour vous. Le samedi 7h45, dictons, citations ou expressions, elles n'auront plus de secret pour vous. À bientôt.